Rosny est né, la femme disparue, 1926. Vous passerez par la route des loups, dit au cocher Mademoiselle Francisca d'Escalante, lorsque le coupé arriva au plus haut de la forêt. C'est un site convulsé. Les futaies alternent avec des granites, des porphyres et des grès rouges. Les rocs, dont d'étranges figures et de chaînes six fois séculaires, jaillissent sur des corniches indestructibles. Des labyrinthes tournoient parmi les blocs et les arbres. Ce fut jadis une formidable retraite de bêtes sauvages, un nid de parias, d'outlaws, de bandits, de sorciers et de sorcières. Les loups y dévoraient la chair vivante des voyageurs. On y célébra la messe noire, les chauffeurs y rôtirent les pieds et y concassèrent les os de leurs victimes. Francisca aimait ce lieu redoutable. Peut-être retrouvait-elle l'âme des fauves sierras où avaient vécu ses ancêtres. Cet après-midi, dans la grande solitude, elle y examinait ses chances et ses malchances. Ses mains brûlaient. Tour à tour, elle subissait les émotions qui soutiennent ou qui dépriment. Elle considérait le site d'une prunelle fervente. Pâle et presque tragique, c'était une émouvante créature. La nature lui avait donné le rythme, la grâce flexible, le sel de séduction des sensuelles castillanes. Avec le feu noir de ses yeux, sa chevelure nuit d'été, son teint de nacre et de muguet, sa bouche écarlate avec ses gestes beaux comme ses contours, elle était faite pour donner aux hommes une image terrible du bonheur. Son agitation parut s'accroître, et elle murmurait tout bas avec une amère mélancolie, « Oh, la reverrai-je jamais ?» D'un geste convulsif, elle tâta son corsage et en tira une lettre flétrie. C'était une de ces lettres de pauvres qui se reconnaissent au papier fané, à l'encre rousse, à je ne sais quoi d'humble, de gauche et d'hésitant. Francisca la parcourut avec une sorte de mysticisme. Que de fois je l'ai relue. Une pénombre s'était faite. On n'apercevait plus un ray de lumière. Et l'immobilité devint si complète qu'on eût cru que toute vie avait disparu. Et alors on entendit une détonation sèche et stridente. Le cheval fit un bond, le cocher scrutait des yeux la route, les blocs et les sous-bois. Une deuxième détonation retentit, vite suivie d'une troisième. Atteinte au crâne, le cheval s'abattit, et Francisca put voir vers sa droite deux têtes masquées de toile, tandis que sur la route, un homme trapu, masqué aussi, barrait le chemin. Cependant, le cocher Marcel, d'abord abasourdi, reprenait son sang-froid. Ce n'était pas un lâche. Prêt à défendre sa vie, il fouilla dans un renfoncement à l'arrière du siège et en tira un revolver. Les deux têtes disparurent tandis que le personnage de la route se jetait derrière un arbre. Et le silence fut tragique. Il ne dura pas même une minute. Deux nouveaux coups de feu crépitèrent. Le cocher visa dans la direction d'où les détonations étaient parties et tira trois fois au jugé. Un rire s'éleva, souligné d'une fusillade. Atteint à la poitrine, Marcel tira spasmodiquement deux des balles qui lui restaient et qui se perdirent dans le feuillage. Puis il croula de son siège et poussa son cri d'agonie. Une horreur innommable glaçait Francisca. La mort était là, la mort de la bête sous la griffe du vainqueur, la mort des temps féroces. Toute force sociale était abolie. La jeune femme, puissante par la beauté, par la richesse, par la discipline traditionnelle, devenait une petite chose faible, misérable et abandonnée. Elle connut la peur brusque qui arrête le sang et paralyse chaque muscle. Mais Francisca appartenait à une race dure. Elle fut vite prête au pire. Toutefois, que faire? Elle n'avait point d'armes. Son intervention ne servirait qu'à sa perte. Sa seule chance, si Marcel ne réussissait point à effrayer les malandrins ou à attirer quelque improbable renfort, était dans la fuite, mais chance si faible qu'elle équivalait presque au néant. Pendant la pause brève à la fin du combat, plus brève encore, elle eut la vision complète de cette partie de la forêt si souvent parcourue. Elle traça des plans et des projets, vain sans doute mais énergique. Au moment où Marcel tombait, elle se trouvait déjà sur la route, du côté opposé à celui où se tenaient les bandits. Le hasard lui accorda une faible faveur. Le revolver du cocher venait de rouler devant elle. Elle se baissa pour le saisir, et quoiqu'il ne contînt plus qu'une seule cartouche, la possession de l'arme accrut son courage. Ensuite, elle s'élança droit devant elle. Une fusillade la poursuivit, des balles sifflèrent à son oreille. Le tronc d'un être énorme la cacha, puis elle se glissa derrière un bloc de porphyre. Cependant, les bandits avaient jailli de l'embuscade et commençaient à la poursuivre. Ils hésitaient, impuissants de découvrir où Francisca s'était cachée, et de toutes parts, on apercevait des abris propres à servir de retraite. Et tous trois tendaient l'oreille. Une course rapide, le battement des pieds légers sur le sol, des frôlements contre les plantes, mais il y avait tant d'échos parmi les grands anites qu'ils ne discernaient aucune direction. « Fossé guerrier !» dit le plus court des trois, individu fluet dont les yeux brasillaient dans les trous du chanvre. « On s'avertira par le sifflet, histoire de ne pas se perdre. » « Mais ça barde !» dit le personnage trapu, qui ricanait d'une façon étrange et maniaque. « J'y, courte échelle !» ajouta le dernier d'une voix sourde. Il était taillé en force de haute stature avec d'énormes pattes d'étrangleur. « Oublie pas le sifflet !» insista l'homme fluet. Et tendant le bras, « V'là ma route, et toi, tenaille, tira de l'autre côté, et Martin entre les deux. » Il disparut le premier dans la direction du être qui avait caché Madame l'Escalante. L'Hercule prit à droite, et Martin le trapu, avec un faux air d'ours debout sur les pattes d'arrière, s'engagea vers le centre. Courtéchelle et tenaille se trouvèrent dans un bizarre labyrinthe. La terre pleine de creux, le granit et le porphyre fendus par quelque antique cataclysme, ouvraient des issues serpentantes hérissées d'obstacles et de buissons. Martin, lui, marchait dans une tranchée vers le couchant. On n'entendait plus la course de la fugitive. Elle s'est peut-être bien cachée, songea Courtéchelle, avec un frissement de rage. Car il avait mauvais caractère. Elle ne s'était pas cachée. Au sortir de la terre dure, elle avait trouvé une sente moussue où les pas s'assourdissaient, et elle courait vertigineusement. La nature lui avait donné de bons jarrets et du souffle. Au bout d'un quart d'heure, ayant dépassé les granites, elle entrait dans la futaie épaisse. Oh, c'était presque la sylve vierge, la force libre des végétaux. À cause de la difficulté des transports, ce terroir demeurait farouche. des chênes du temps de Louis XIII y croissaient parmi des arbres plus jeunes, des troncs pourris par les parasites ou incendiés par la foudre. Francisca sentit qu'elle avait de l'avance. Elle connaissait la route. Toute sa volonté tendait vers la maison d'un garde-chasse là-bas, où elle rencontrerait peut-être de l'aide. Mais il faisait bien encore de 4 kilomètres. Avant de s'élancer au travers d'une combe, elle se retourna et épia le sous-bois. Elle ne vit rien, elle n'entendit rien. La chance se dessinait-elle en sa faveur? Mais un coup de sifflet strida auquel deux autres répondirent. Si les derniers semblaient venir de loin, le premier se révélait assez proche. « L'un des bandits est sur ma trace !» Elle hésitait. Fallait-il traverser la clairière ou, pour donner le change, essayer d'un crochet? Francisca prit un moyen terme. Au lieu de filer en ligne droite, elle franchit un mamelon, passa sous un arbre demi-renversé, dont un lierre dévorait les branches. Sa mémoire l'avait bien servi. Une deuxième sente était devant elle qui attaquait la combe en corniche. Elle y fila légère, elle se perdit derrière un rideau d'arbustes. Courte échelle perdait du temps. Après 5 ou 6 essais pour découvrir quelque indice, il avait pris le parti de marcher vers l'est, tout en clamant des conseils à ses complices. Pendant 10 minutes, rien ne révéla si la voie était bonne. Il vit luire quelque chose et, se baissant, il ramassa un peigne d'écailles blondes, incrusté de pierres bleues. « Oh ben !» s'exclama-t-il, « la grossesse a passé par ici !» Tout en reprenant la chasse, il jeta un coup de sifflet auquel répondirent Martin et Tenaille. « Bon, ils sont pas encore trop loin, » pensa Courte-Échelle. « Faut voir avant de les faire appliquer. » Il ne découvrait rien de nouveau. Mais il craignit que la fugitive n'eût pris sous le couvert, ses yeux flamboyants scrutaient les pénombres. D'évidence, il n'avait pas l'habitude de la forêt. Non, c'était un homme des villes, un sauvage du pavé et du trottoir, perdu dans la nature. « Ben, il me faut Martin !» grommela-t-il. Et sans arrêter sa marche, il se décida à donner 3 coups de sifflet pour le rassemblement. Un instant plus tard, il s'avisa que la terre molle sur laquelle il marchait gardait l'empreinte de ses semelles. « Ben, comme il n'y a rien devant moi, c'est qu'elle n'y a pas passé !» Se souvenant que la sente avait bifurqué et qu'il avait pris à droite, il tenta de reprendre l'autre embranchement. Après quelque temps, il y parvint et poussa un juron de joie. La trace de la fugitive se dessinait sur le sol. Courte-Échelle répéta le signal du rassemblement et prit la chasse. Il était terriblement agile, mais la terre molle prit fin, ou tout du moins, sous des ombres plus légères, elle devint rare, jaunâtre, sèche. Elle cessa de guider le poursuivant. « Saloperie !» gronda le malandrin, repris d'un accent de colère. Il ne crut pas devoir s'arrêter. Même il garda son allure rapide dans l'espoir de surprendre la proie. Et c'est ainsi qu'il parvint aux abords de la combe. Là, il comprit que la piste devenait tout à fait précaire. Penché sur le sol, il essaya de remplir son rôle de batteur d'estrade, mais le sol ne s'y prêtait point. Francisca avait disparu sans laisser aucun vestige assez précis pour guider l'inexpérience du drille. « Y a pas, faut que j'attende Martin !» fit-il en arrachant avec fureur les feuilles et les ramilles. Il siffla encore une fois et attendit. Après 5 ou 6 minutes, un pas lourd ébranla le sous-bois. Le puissant tenaille apparut sous les branches. C'est Martin qui me faudrait, fit Courtechelle. Tenaille demandait, t'es sur la piste? Oui, riposta l'autre avec mauvaise humeur. J'ai eu la veine de la piger, c'est bon, elle s'arrête ici. Faut-il continuer par le fond ou bien s'est-elle cavalée par ailleurs? Tenaille passa sa main énorme sur sa nuque. Homme des villes, ignorait cette langue subtile que la terre parle aux chasseurs, aux cheminots, aux rôdeurs des bois et de la plaine. « Mais comment sais-tu que t'es sur la piste ?» insista-t-il. « Bon, à cause que j'ai trouvé ceci et puis des marques de bottines. » Il montrait le peigne d'écailles blondes. L'athlète l'examina avec un sillement. Pour avoir jadis essayé la brocante et le recel, il possédait quelques sciences des métaux, des gemmes et des matières rares. Un éclair roux jaillit de sa prunelle. « Bon, c'est de l'écaille comme ils sont pas des sciaux. Ce qu'il y a de plus bat, pas un défaut. Mais ce qui a surtout de la valeur, c'est les pierres bleues. Si c'est pas du saphir, je me laisse scier la margoulette, et il y en a pour des faffes. » Courtechelle poussa un grimacement de convoitise. « Nom de Dieu, faut pas que le carapate !» Tenaille hocha la tête et fit son geste d'étrangleur. Oh, ce serait pas long. Mais pendant qu'on cause, elle prend de l'avance. C'est du quoi, allez, file par le trou, t'es le plus rapide, je m'arrangerai avec Martin. Courtechelle trouva le conseil bon. Il fonça devant lui comme un chevreuil. Martin ne tarda pas à paraître. Il soufflait, ayant fait une course plus longue que les autres, et aussi parce qu'il avait les articulations lourdes. « Il y a du bon !» déclara Tenaille en lui mettant la patte sur l'épaule. « La gonzesse en passait par ici, pas d'erreur, seulement quel côté qu'elle s'en cavalait. Toi qui es cutéreux, tu le sauras peut-être !» Et il négligea de parler du peigne d'écaille. « Au revoir !» fit Martin, qui avait repris haleine. Il examina les alentours avec attention. C'était un homme lent, aux yeux de bœuf, mais sagace. Il finit par dire « il y a du grabuge sur ce mamelon. Et puis voilà un caillou qui est sorti. La broussaille, elle est froissée. Mon blair, qu'elle s'est frottée par là !» « Allons-y, dit l'athlète, et traînons pas. » Ils se remirent en route. Quoique la pente fût difficile et parfois défendue par des épines, la marche de Francisca demeurait rapide. Elle descendit d'abord obliquement, puis elle se remit à remonter. La traversée de la combe ne dura pas un quart d'heure. Désormais, elle avait 9 chances sur 10 d'atteindre la maison du garde. Même elle jugea utile de couper au plus court, car le chemin solide ne devait pas garder de vestiges. Dans le silence et la paix des choses, elle put croire au salut. Aucun coup de sifflet ne se faisait plus entendre. Les bandits avaient dû hésiter devant la combe, et peut-être s'étaient-ils égarés. Une vague prière monta aux lèvres de la jeune femme. Elle demandait avec fièvre, « Oh mon Dieu, que je ne meure pas avant de l'avoir revue !» Au même instant, les coups de sifflet reprirent. Les chasseurs suivirent la voie. Alors, Francisca eut sa défaillance. Le cœur, après tant de palpitations, parut se dérober. Mais la vaillance des races dures protesta. Elle se sentait forte encore, et la maison du garde était proche. « Anda, Anda !» murmura-t-elle. La sombre énergie revint à grandes ailes. Un toit parut parmi les branches, puis une façade blanche, à moitié dissimulée par des glycines, des roses et de la vigne vierge. Madame d'Escalante sortait du monde sinistre, du pays des fauves, et croyait revenir parmi les hommes. Dans ce premier moment, elle eut la certitude de rencontrer le garde. Elle le connaissait bien. C'était un homme hardi et un bon tireur. Avec les bandits eussent pu atteindre la maison, le fusil du garde les aurait abattus comme des sangliers. Et si par surprise il réussissait à se glisser jusque auprès des portes ou des fenêtres, il leur faudrait tenter un assaut dont ils seraient sûrement victimes. Ainsi la fugitive arrivait, pleine de confiance. Un doute commença de naître lorsqu'elle se trouva près de la clôture. La maison était silencieuse, les volets fermés. La jeune femme passa brusquement de l'espérance à la terreur. Le garde était en tournée. La fugitive aurait dû se le dire, mais l'instinct avait dominé. Le grand instinct d'illusion, sans quoi l'homme succomberait aux menaces perpétuelles du monde. Francisca, ouvrant la porte à claire-voie qui fermait au loquet, heurta successivement aux panneaux de chêne et aux volets de fer. Tout était clos. Et quand bien même la maison eût été ouverte, comment résister à l'assaut des trois hommes ? « Mais j'y aurais trouvé des armes, se dit-elle. » Elle fit deux ou trois fois le tour de la demeure, cherchant quelques défauts dans les fermetures. Trois coups de sifflet stridèrent sous le couvert. Madame de Escalante tira précipitamment une enveloppe de son corsage et la glissa dans une boîte aux lettres clouée à la muraille. Puis, haletante, elle sortit du clos et reprit sa course. D'abord, aucun projet ne se dessina dans l'imagination de Francisca. Non qu'elle eût perdu courage. Pour avoir réussi à éloigner si longtemps le péril, elle se sentait comme une provision de foi. Jusqu'ici, sa décision, son endurance et le hasard avaient travaillé pour elle. Pourquoi l'aide des hommes ne viendrait-elle pas à son tour ? Elle y comptait, comme un joueur compte voir sortir la rouge lorsque la noire a passé plusieurs fois. Et tout à coup, elle eut une illumination. Elle se souvint qu'il y avait, à un quart d'heure du lac des Chevreuils, un campement de charbonniers. Il fallait, il est vrai, franchir le lac. Mais elle connaissait un havre où l'on amarrait un canot grossier, presque un bac, qui servait tantôt au passage, tantôt à la pêche. Cet endroit était assez proche. Si elle pouvait l'atteindre, ou bien elle trouverait le canot vide et pourrait s'en servir, ou bien il y aurait un ou deux pêcheurs, ou encore le bac serait en route et l'appellerait au secours. À la rigueur, elle irait à la rencontre des sauveteurs. Elle savait nager. Elle obliqua à droite, à travers un fourré d'abord, puis par une sente qu'elle avait parfois pratiquée. Ce changement de route lui fut favorable, car les bandits ayant atteint à leur tour la maison du garde, Martin releva des traces de la fugitive, reprit la chasse avec une quasi-certitude, mais il dépassa la bifurcation. Puis comme le terrain devenait mou et qu'il n'y apercevait aucun vestige, il revint sur ses pas et siffla le rassemblement. Ce signal apprit à Madame de l'Escalante que son avance s'était accrue. Après une vingtaine de minutes, la futaie se raréfia, les chaînes disparurent, les hêtres s'espacèrent, et se présenta une surface plantée d'herbes et de broussailles. Au fond, parmi des saules, des peupliers, des roseaux, on discernait le lac des chevreuils. Francisca poussa un grand soupir, mais c'était un soupir de joie. Le moment approchait où elle allait sortir de ce cauchemar. Rien n'annonçait que les poursuivants fussent proches, et elle apercevait la crique à demi cachée par les roseaux. Dans le canot, Francisca serait sauve. Le lac s'étendait très loin, à droite et à gauche, tandis qu'un promontoire avançait sa pointe et raccourcissait la traversée. Oh, il était temps, balbutia-t-elle. Ses forces faiblissaient. Elle avait la poitrine rompue et ses jarrets commençaient à fléchir. Elle rassembla ses dernières énergies et en moins d'un quart d'heure, elle atteignait la crique. Là, ses prunelles se dilatèrent et elle ne put arrêter une plainte. La crique était vide. Les rives désertes et la surface du lac s'étendait immobile et solitaire. Francisca demeura écrasée par le sort. Puis l'instinct de la fuite renaissant, elle jeta un regard autour d'elle, long, et elle chercha la meilleure voie à suivre. Un tremblement la parcourut. Le bandit trapu venait de sortir du couvert. Il l'avait vue. Il eut son ricanement funèbre et siffla trois fois sans arrêter sa course. Une minute plus tard, Courtechelle et Tenaille débouchaient à leur tour. Ils s'avançaient en ordre dispersé, de manière à couper toute retraite. Francisca se sentit perdue. Quand 4 heures sonnèrent, éclatantes et jeunes à l'horloge des éperviers, poussives et rauques au clocher des Saint-Michel et Nicolas, Simone Vaugelade eut un frémissement. Elle se leva du fauteuil de cuir fauve où elle songeait et regarda vers les fenêtres. Le paysage entrait fastueusement. On apercevait une pelouse verte comme un herbage d'Irlande, avec un bassin octogone où voguaient de grands cygnes, des canards de soie, de pourpre et de cuivre. Ensuite, le parc, petite forêt de chênes rouvres, de hêtres rouges, d'ornes et de sycomores, et des lieux de futaies, un pays de cimes, une patrie d'arbres, où persistait la Gaule celtique, la terre immense des ancêtres. Simone Vaugelade portait une chevelure aussi claire que la paille de froment. Elle ouvrait sur les choses les yeux vifs des Achéennes. Avec son teint d'églantine, son visage où la vie frissonnait en sourire, sa structure allongée, sa démarche agile, elle semblait faire confiance au destin et le narguer. L'heure triste, songea-t-elle. Elle ressentait l'oppression du mystère. Et, songeant à Francisca, elle soupirait d'inquiétude. Elle l'aimait, cette Francisca ombrageuse, tragique et si mystérieuse depuis quelques jours. Quand Simone s'était trouvée orpheline, la demeure des Escalantes avait ouvert ses portes à elle-même et à son frère. 12 ans déjà. Don Joaquin, à qui les unissait un vague cousinage, était mort. Sa veuve avait continué son œuvre. « Mais pourquoi ne pas parler ?» murmurait Simone. « Elle aurait bien moins de peine. » Comme elle rêvait, il s'éleva des clameurs. Des voix étrangères croassaient. Jacques, le valet de chambre, ripostait sans bienveillance. « Oh, de la galette, jamais ! Du pain, et encore ! Vous êtes bien dégoûtant d'avoir franchi cette grille !» Mais à force d'avoir marché, nous avons les pattes en sang. Donnez-nous de quoi prendre un train, fit une voix rauque. Une autre voix sifflante ajoutait. 2 ou 3 balles, qu'on vous dit, se prend autant pour vos patrons Quel liard pour un ouvrier! Simone s'était glissée dans le vestibule. Deux personnages sinistres sortaient par la porte grillée. L'un, d'imposante stature, couverte d'une veste roussie, déchiquetée comme plaquée d'amadou, avait des culottes couleur d'argile, les pieds dans des croquelots infâmes, et l'autre, court, bancal, vêtu d'une blouse qui ressemblait à une chemise sale, chaussé d'espadrilles et coiffé d'une casquette jaune, il filait le dos rond et les jambes pesantes. Et lorsqu'il fut sur la route, l'homme court cria « Qui dit larbin dit salaud, et puis vos singes aussi, tous salauds et tous vaches, ce sera pas trop tôt que les anarchistes mettent le feu à vos pioles. » Mademoiselle de Vaugelade regretta l'acte du domestique. Superstitieuse, Francisca voulait que toute demande fût accueillie. Et Simone se contenta de dire « Il fallait les traiter doucement. » Jacques regarda la jeune fille avec stupeur. « Mais de la vermine de bagnard, mademoiselle. Oh, si je m'étais écouté, j'aurais lâché les chiens. Même eux, faudra ouvrir l'œil. » « Non, c'est égal. Une autre fois, soyez moins brusque. » Et elle alla reprendre son rêve, apaisée par le calme de la pelouse, les signes argentés et la chair verte des arbres. Devant elle s'étalait l'avenir des êtres neufs, l'avenir profond comme l'océan, lointain comme les soleils. À l'amont, le passé, presque féerique, 5 heures sonnèrent, elle devint pâle, ce fut d'un de ces pressentiments qui viennent des abîmes de l'être. Presque toujours, il nous leurre. Simone, feuilletant des magazines, essaya de s'intéresser à Marion, qui voyageait sur le Rhin, au prix de beauté de Chicago, à l'heure donnait, qu'on montrait, vêtue d'un costume cycliste, en train de mimer une scène de sa prochaine pièce, au signor D'Annunzio, qui avait été démêlé avec l'Europe. Le temps passait mal, mais 6 heures approchèrent. Simone tendait l'oreille, qu'elle avait fine, essayant de discerner le roulement d'une voiture. Simone tremblait. Ce n'était plus un pressentiment. La route était déserte. Madame de Vaugelade était à la recherche de Francisca. On n'avait relevé aucune trace. Jacques et Auguste faisaient de leur mieux, et leur mieux était peu de chose. Le premier savait mettre un couvert et servir à table. Sur une grande route et dans les bois, c'était un pauvre homme malhabile. Auguste Monod, le jardinier, possédait quelques vagues discernements. Il observait la chaussée avec une perspicacité relative. Quoique ce fût une roue de carrossable, elle restait déserte. Les villages qu'elle desservait connaissaient la décadence, tandis que deux bourgades rivales, jadis humbles, prenaient de l'envergure. La route participait au destin des villages. Les charretiers l'avaient abandonnée. Malgré les ponts et chaussées, elle produisait des herbes et des mousses qui, dans bas endroits, pouvaient dénoncer le passage récent d'une voiture. Et Auguste finit par déchiffrer leur langage. « Possible, mademoiselle, que madame revienne par ici, mais sûrement il n'y a pas passé tantôt. » Il épia la longue surface droite. Les frondaisons formaient une manière d'ogive. On ne percevait que la solitude. « En tout cas, reprit-il, la voiture serait loin. J'ai pas l'idée que nous faisons de bonne besogne. » Simone jetait d'ardents regards à travers la nef forestière. Le soir approche. on distingue les forges du crépuscule. Des feux de cuivre et de soufre s'allument sur des lacs d'améthyste. Il s'élève des vapeurs étranges. De grosses gouttes d'or rouge pleuvent sur le long des arbres et le sol pâlissant. Pendant quelques minutes, les passereaux se plaignent. Puis un lourd frémissement affaisse les feuillages et les mélancolies sans bornes s'emparent de l'étendue. Simone sent la force de l'antique nature. La menace des futaies pèse sur son cœur fragile. Que faire ? Bien, je vais vous dire, fit Monroe, qui dans ce milieu sauvage prend de la morte autorité. Sauf respect, je continuerai par ici, ça me connaît. C'est l'heure où le camarade Marcel Barignan me rapplique au gîte. Il connaît la forêt, mademoiselle, comme un vieux loup. Et des yeux de lynx. Mais vous allez être seule. Mais c'est plutôt vous, mademoiselle. Moi, avec ma trique, mon revolver et mes bons yeux, faudra être malin pour me prendre. J'aurais voulu vous voir hors de la forêt. Mais ne vous inquiétez pas de moi, fit mademoiselle de Vaugelade. « Va bien, riposta le jardinier, qui n'avait pas l'habitude de discuter. Je vais essayer de saisir Barguigne. » Simone s'en retourna avec le valet de chambre. Comme la route descend légèrement, ils employèrent moins de temps qu'ils n'avaient fait à l'aller. À l'orée de la forêt attendait un jeune garçon envoyé du château, selon qu'il avait été convenu. Eh bien, s'écria Simone, mais aucune nouvelle de madame. Cela tomba comme un glas. Le soir parut plus fauve. Au couchant, la braise colossale des nuages s'éteignait avec lenteur. Une lune montait plus sanglante que le crépuscule. Le malheur semblait caché dans les futaies comme une bête sauvage. « Mais allons voir, » dit Simone, « sur la route des tourbières. » Sur la route des tourbières, il n'y avait personne. Soit que les serviteurs fussent encore en forêt, soit qu'ils eussent pris le chemin du château. Et Simone s'obstinait à interroger les pénombres où paraît descendait l'argenture de la lune. Ce fut l'attente vaine, le heurt du tragique et de l'inconnu, l'intolérable rage de l'impuissance. Le valet de chambre finit par dire « Faudra-t-il faire une battue et avertir le maire ?»« Mademoiselle, c'est que M. Fontaine fera tout ce qu'il pourra. Et puis, il est de bonne volonté. » Simone y avait déjà songé, mais elle craignait de mécontenter Madame de Escalante. Le maire, avocat à la cour d'appel, qu'une fatigue de larynx tenait éloigné des tribunaux, professait de l'admiration pour la châtelaine. C'était un homme de ressources, dont l'aide pouvait être efficace. Simone se décida à le faire avertir. « Vous avez raison, » dit-elle. Et, s'adressant au jeune garçon, « Charlot, vous repasserez au château. Si madame est toujours absente, vous irez prévenir M. Fontaine. »« Mademoiselle devrait aller reprendre des forces, » suggéra Jacques. « L'air du soir est traître sous ces arbres. »« Oh non, » fit-elle avec amertume, « je ne rentrerai pas maintenant. » Jacques jugeait cette attente au coin d'un bois inutile et déraisonnable. Par surcroît, la faim la talonnait, sans qu'il osât le dire, mais Simone y pensa. « Charlot, » ajouta-t-elle au moment où le jeune garçon enfonçait sa bicyclette, « vous direz aussi au cuisinier qu'il envoie des vivres. » La silhouette de Charlot décrut sur la route argentée. Simone songeait à Martial Barguigne. comme il arrive aux heures de détresse, elle s'hypnotisa sur cette image. Martial seul était capable de s'orienter à travers les pièges de la Sylve. Homme de forêt et des futaies, des plaintes et des bêtes, de la pluie et de l'ouragan, il ne se livrait pas au braconnage. Selon la saison, il cueillait la fraise, la framboise, les champignons, les fleurs nouvelles, les fougères, les herbes médicinales et ramassait le bois mort. Son luxe croissait sur le sein sacré de la terre. Il goûtait l'aventure des saisons et la vie innombrable, les chants du merle, de la grive et de l'alouette, l'appel d'horloge du coucou, le croassement des corbeaux, la plainte du chat-huant, la voix de vieille femme des grenouilles parmi les roseaux et les nymphéas, le rire du chevreuil et du cerf, et tous les frissons, toutes les clameurs, tous les chuchotements, tous les bégaiements des ramures. Il ignorait, en somme, combien toutes ces choses remuaient en lui l'instinct des temps farouches. Sans le dénoncer, il se divertissait à combattre le braconnage. Habile à défaire les collets ou à rompre les pièges, il faussait aussi les traces à l'aide de ses chiens. Dévorant et loup-garou, et jetait les braconniers sur de fausses pistes. Quelques-uns lui cherchèrent droit et s'en repentirent. Astucieux, leste et brave, adroit au lire, au bâton et à la lutte, il cédait de ses chiens au nez subtil et au croc de granit. À la fin, les rôdeurs s'arrangèrent pour braconner loin de Barguigne. Cet homme s'était pris de sympathie pour les gens des éperviers. Il écoutait ses fraises, ses framboises, ses fleurs sauvages, mais surtout on s'y intéressait dans sa personne. Mais c'est Maurice Vaugelade qu'il aimait. Encore enfant, ce dernier ne connaissait rien de plus beau qu'une excursion avec Barguigne. Et Barguigne, en retour, s'éjouissait de guider le jeune garçon. Le temps n'avait pas défait cette affection, car c'en était une. Maurice partait en randonnée avec les rangs. Il apprenait à connaître la vie mystérieuse de la forêt à la manière des Indiens, des Malais de Bornéo, des vieux Celtes, et ne devait jamais oublier le secret mélancolique des solitudes. Comme elle songeait, Simone crut ouïr un aboiement lointain. « Avez-vous entendu ? » fit-elle en se tournant vers Jacques. Jacques, homme vorace que la faim rendait rêveur, bâillait « ma chère David ». « Non, mademoiselle, je n'ai rien entendu. » La lune, moins grande et plus claire, pareille à une roue d'argent, faisait une rivière blanche sur la route et pleuvait à travers les feuillages. Une haleine tiède, légèrement électrique, fluait dans l'intendu. On entendait les voix fraîches de végétaux. Une senteur de volupté semblait monter de la terre et tomber du ciel. Et tout était antique et tout était très jeune. Un nouveau bruit attira l'attention de Simone. Une automobile ? Jacques, après un moment d'attention et le bruit se rapprochant, acquiesça. Le bruit s'enfla. Un grand œil phosphorescent grandit du fond des ténèbres. On put voir la machine pareille à quelque bête fabuleuse. Elle stoppa et trois hommes en descendirent. C'était Charles Fontaine, le maire de Mortange, son fils Philippe et le garde champêtre. Fontaine s'avança, le chapeau à la main. Ben, j'ai voulu, dit-il, me concerter avec vous au plus vite. Il n'y a pas lieu d'être inquiet, je le crois, j'en suis presque sûr, mais nous agirons comme s'il y avait du danger. Il parlait d'une voix creuse et lasse. À la lueur de la lune et de la grosse lanterne d'automobile, on voyait un corps maigre, des yeux ardents, dont le bleu se nuançait d'émeraude. La moustache longue et fauve retombait tristement. Son fils Philippe tournait vers Mademoiselle de Vaugelas d'un regard timide. Sa bouche luisait sous la moustache, claire comme un feu sous la cendre. Le garde champêtre, quinquagénaire bas sur pattes, se recommandait par une tête en croque-citrouille où poussait un profil d'albinos roide comme des soies de porc, en sorte que ses sourcils ressemblaient à des brosses à dents, sa moustache à une brosse à ongles et ses favoris à des brosses à cheveux. « Mais je ne vois qu'une chose à faire, » dit mélancoliquement Simone, « une battue dans les bois. » Fontaine répondit, « J'ai donné des ordres à mes serviteurs. Avertis ceux de Madame d'Escalante et faites appel aux gens de bonne volonté. Avant une demi-heure, nous aurons 30 hommes. » Elle le remercia d'un regard. Philippe fit un mouvement vers Simone, puis il devint très rouge et il bredouillait quelque chose tout bas. Un aboiement retentit dans la futaie. Une voix rude s'entendit. « Vous dérangez pas, j'accoste !»« Oh, c'est Martial Barguigne !» remarqua le garde champêtre. « Mais qu'est-ce qu'il fiche dans les bouées à cette heure ?» Il fit le geste d'arrêter le contrevenant. Il se plaisait à ce geste, qui symbolisait sa suprême illusion. Déjà, Martial apparaissait sur la route, précédé de ses chiens et suivi par Auguste. Théveran et Loup-Garou levaient des têtes de chacal, aux prunelles phosphorescentes, aux dents aiguës comme des dents de scie. Leur démarche était furtive, silencieuse, redoutable. Un poil fauve, argenté à la poitrine, couvrait leur corps flexible. Le maître rappelait les loups, les grands loups de la vieille France. Il en avait la forte sécheresse, les reins agiles, les membres infatigables. Il en avait aussi la nuque renflée et les farouches mâchoires. Le visage couvert d'un poil rare, analogue au pelage de ses chiens, il était sauvage et méfiant. Simone le regardait venir. Dans la nuit, au murmure des grands arbres, avec le drame qui planait, le rôdeur et ses bêtes semblaient les maîtres de l'heure. Martial, tenant à la main son chapeau roussi, aux ailes retombantes, s'adressa à Simone. « Je suis venu, » dit-il d'une voix qui rappelait le bruit des sources, « parce qu'aucune voiture n'est passée par la route de Sivry. C'est par ici qu'il faut commencer les recherches. » Ses prunelles agiles photographiaient être des choses. « Croyez-vous, » s'enquit Simone, « que vous pouvez suivre le chemin parcouru par Madame d'Escalante. » Martial désigna ses chiens orgueilleusement. « Avec eux, mademoiselle. Il n'y a qu'une seule chose qui pourrait vous arrêter. »« Et quoi donc ?» intervint Fontaine. « L'orage !» Martial tournait son visage vers l'occident. On y distinguait des nuages couleur ardoise, entremêlés de lueurs pâles. « Oui, l'orage seul !»« Mais il n'y a pas d'orage. »« Oh, pas encore, non, mademoiselle, mais Je ne sais pas s'il y en aura, mais tout de même, ces nuages-là et l'odeur de l'air. Mais ce ne sera pas avant de bonnes heures. D'ici là, nous pouvons faire de la besogne. Mais, insista Simone, pourquoi l'orage vous arrêterait-il? Et à cause de la pluie. Si c'est une grosse pluie, elle lavera le sous-bois et nous perdons notre gros atout, je veux dire le nez des chiens. Aussi faut-il que chaque minute profite. Je vais filer devant avec Auguste. Monsieur le maire organisera une battue en éventail, de manière à couvrir la droite et la gauche. Martial, s'écria Mademoiselle de Vaugelas d'un ton de prière, je vous accompagne. Bon, c'est qu'il faudra aller vite, mais j'irai vite. C'est qu'il faudra marcher sous bois et grimper, il y a des granits. Mais j'aiderai Madame de Jade lorsqu'il le faudra, intervint Philippe. Il n'était pas négligeable, ses gestes décelaient l'homme entraîné au sport. Comme vous voudrez, acquiesça Barguigne. C'est bon, si vous ne pouvez pas me suivre, je ne m'arrête pas. Faudrait encore quelqu'un avec vous et Auguste. Ce sera moi, fit mollement le valet de chambre. Il parlait par devoir. Des images de viande rouge, de pommes de terre frites, de miches dansaient d'une sarabande dans sa cervelle. Bon, vous valez pas grand pour la forêt, objecta l'errant. Il tendait l'oreille. Oh, là du monde! Ce sont les hommes pour la battue, fit le maire. Il en a bien un dans le temps qui connaît le bois. Il nous rejoindra. Dévorant poussa un aboiement sec que répéta Louis Garou. Oh, cette fois! C'est par là, remarqua Martial en montant la voûte des tourbières. Eh, c'est du monde de connaissance. Allez en route. Vous êtes armé, monsieur Philippe? Oui. Oh, pas peur, j'ai un revolver, dit Auguste. Arme prohibée, grommela le garde champêtre. On t'en collera des armes prohibées, ricana Barguigne. T'as seulement pas deviné que j'ai mon fusil sur moi, bas sur patte. Inutile de vous demander si vous n'auriez pas un objet ayant appartenu à Madame de Escarente, demanda Martial à Simone. Hélas, non, fit-elle avec regret, car elle comprit le but de cette demande. Bon, on verra son passé. Allez hop, Bélou! Il s'engagea par la route des tourbières, tantôt suivi, tantôt précédé par les chiens. Ses sens étaient tendus, sa vigilance continue. Simone sentit passer un petit souffle d'espérance. Brusquement, les chiens qui avaient aboyé par intervalles s'élancèrent d'un bond vif. Qui va là? S'écria le rôdeur. Deux voix encore lointaines répondirent: C'est nous, Édouard, Baptiste. Bon, ça, hey, stop, Louis-Garou. La paix, Dévorant. Louis-Garou et Dévorant s'arrêtèrent net avec un faible grondement. On discerna les silhouettes des deux domestiques. Ils semblaient recrues de fatigue. Et qu'est-ce que vous nous apportez? Demanda Martial. Édouard, petit homme blafard au poil carotte, se tourna vers Simone. On apporte ceci. Il tendait fièrement un briquet de fumeur. Oh, le briquet du cocher Marcel! Oui, on l'a trouvé au haut de la route, près de la traverse de Montenoir. Barguigne avança la main pour le prendre, mais Édouard ne le lui donna point. Oh, ça peut être une pièce d'éconviction. Obéissez à Martial, dit Simone. Édouard tendit le briquet, l'errant y jeta un coup d'œil rapide et grommela. Bien là-dedans la vapeur du cocher, la vapeur des chevaux. Nous allons suivre la piste comme si elle était marquée avec des drapeaux. Ici les loups! Il fit renifler l'objet au compagnon fauve, puis « Allez !» Les chiens flairèrent la route, puis levèrent le nez vers Édouard. « Son odeur s'est mêlée au briquet !» remarqua Marguille. « Mais ils vont savoir ce qu'il y a à faire !» Il répéta avec force « Allez !» Loup-garou et dévorant filèrent en ligne droite. Oh, ils vont pas en servir à grand chose, vu que nous connaissons le chemin jusqu'à la traverse, mais il vaut mieux les tenir en haleine. La petite troupe continua sa route jusqu'à la traverse, où il n'y eut aucune halte. Tout de suite, les chiens prirent une route latérale. Pas peur, déclara Martial. Ils ont des yeux dans le nez. Et à mesure que la piste devenait plus fraîche, les chiens hâtaient leur marche. Ils changèrent deux fois encore de direction et s'engagèrent dans la route des loups. Ils allaient d'une telle allure que Simone ne pouvait plus les suivre. Martial lui-même perdait du terrain. Partout, des arbres antiques, des rocs de granit et de porphyre, des trouées caverneuses, des défilés d'embûches et de trahisons. Oh, sûr qu'on approche de quelque chose, marmonnait Auguste. Les chiens ont la fièvre. Une clameur l'interrompit. C'était ce hurlement qui ramène le fauve dans le chien et qui évoque la terreur des vieux âges. Oh, les chiens hurlent à la mort!